Police de sûreté de Charles Dickens. Nous ne sommes pas le moins du monde des admirateurs aveugles de l'arche sacrée de la police. Nous trouvons même, pour dire toute la vérité, qu'on a bien surfait cette vénérable institution. Si parmi les policiers il se trouve des gens pleins de finesse et de tact, il se trouve aussi bien des imbéciles qu'une sorte de superstition seul à sacré homme de génie. Dans le but de nous éclairer et de faire à chacun une part équitable, nous avons désiré avoir des renseignements précis, et nous avons obtenu de l'administration générale l'autorisation de causer avec quelques détectives. Cette permission nous fut accordée de la manière la plus obligeante par l'inspecteur qui nous donna rendez-vous pour le soir même. C'est cette réunion avec différents agents les plus marquants de la police que nous allons essayer de décrire, en omettant que ce qui, à juste raison, pourrait paraître choquant au lecteur. En dehors de cela, notre description sera aussi exacte que possible. Nous nous trouvions réunis dans une vaste pièce autour d'une grande table ronde sur laquelle on avait préparé quelques verres et des cigares. La soirée était étouffante, un air chaud se dégageait des pavés de la rue, et les cochers de fiacres qui attendaient devant le théâtre en face faisaient un tapage qu'expliquait les nombreuses libations auxquelles ils avaient dû se livrer dans le cours de la journée. De nouvelles voitures arrivaient sans cesse et se vidaient à la porte du théâtre. C'était un va-et-vient continuel, un brouhaha assourdissant, qui montait jusqu'à nous par les fenêtres ouvertes. Vers 8 heures, on annonce les inspecteurs Wild et Stalker. L'inspecteur Wild est un homme entre deux âges, un peu fort, un grand œil humide et fin éclaire son visage. Il a une voix enrouée et l'habitude de ponctuer chacune de ses phrases d'un geste de son gros index qui se trouve ainsi constamment dans le voisinage de son œil ou de son nez. L'inspecteur Stalker, lui, est un Écossais rusé. Il a tout à fait l'apparence extérieure d'un professeur à l'école normale de Glasgow. Je me figure que peut-être à la longue, on pourrait finir par se douter de la position sociale de l'inspecteur Wild, mais quant à l'inspecteur Stalker, jamais. Une fois les présentations terminées, ces messieurs firent entrer plusieurs agents qu'ils avaient amenés avec eux. J'en compte 5.
Dompton, Wicham, Mitz, Fenda,
un des inspecteurs à chaque bout, à quelque distance de la table ronde. Chacun des hommes, en entrant et d'un seul coup d'œil, a pris l'inventaire du mobilier, et on se rend compte que dans 20 ans, ils se rappelleront jusqu'au moindre détail. Ils sont tous simplement vêtus. Le sergent Dompton est un homme de 50 ans, avec un visage énergique, un front haut, très hâlé, c'est tout à fait le type du vieux militaire. Personne, mieux que lui, ne sait suivre un procès par induction et, sur de faibles indices, remonter de preuve en preuve jusqu'à ce qu'il tienne son bonhomme. Le sergent Wicham, plus court, plus épais, marqué de la petite vérole, a un air timide et pensif. Il est comme absorbé par quelque aride problème d'algèbre. Sa spécialité, ce sont les filous du grand monde. Le sergent Mitt, un homme à figure douce, au teint frais, à l'air naïf, n'a pas son pareil pour pincer les rôdeurs, les auteurs de vol avec effraction. Le sergent Findal, celui qui a les cheveux blonds, ses manières polies et distinguées, est extraordinaire lorsqu'il s'agit de poursuivre des enquêtes sur des affaires privées d'une nature délicate. Quant à Stroh, son air innocent tromperait les plus habiles. En somme, ce sont tous des hommes respectables, ayant de bonnes mœurs et une intelligence supérieure à la moyenne. Rien de rampant ou de faux dans leur manière d'être. Au contraire, un regard pénétrant et vif, une physionomie qui porte la trace des émotions de leur vie. Une manière de regarder en face ce qui leur parle. On allume des cigares, on fait circuler les verres, mais tout cela fort modérément. et la conversation s'anime. Le sergent Wickham nous donne quelques détails sur les flous du Hag Life, puis nous passons en revue différents gibiers du même genre. Bretteur, saltimbanque, danseur de maison publique, lutteur, etc. Chaque fois que dans la conversation il se présente une question de chiffres, je remarque que d'un commun accord, on se retourne vers l'inspecteur Stalker dont la netteté et la précision ne sont jamais en défaut. Lorsque nous eûmes épuisé l'étude de ces diverses écoles de l'art, fait bien des questions, demandé bien des renseignements, nous énumérâmes les crimes les plus horribles et les plus célèbres commis depuis une quinzaine d'années. Car tous les hommes qui sont là ont été plus ou moins occupés de leur découverte et de l'arrestation des meurtriers. Encore tout dernièrement, un de nos hôtes avait donné la chasse et abordé le vaisseau des migrants sur lequel on supposait que la femme qui vient d'être pendue à Londres comme assassin s'était embarquée. Il nous raconte qu'aucun passager ne s'est douté du genre de sa mission et que personne ne s'en doute encore à l'heure actuelle. Il dit comment il est descendu dans l'entrepont avec le capitaine, une lampe à la main, car c'était le soir, et tous les passagers étaient malades ou couchés. Comment il a entamé la conversation avec la femme soupçonnée, comment il a fini non sans peine par l'obliger à relever la tête et à lui montrer son visage en pleine lumière. S'étant assuré ainsi que cette femme n'était pas celle qu'il cherchait, il s'était réembarqué sur le vapeur du gouvernement qu'il avait amené et avait rapporté ce renseignement à son chef. J'allais présenter quelques observations sur les grandes difficultés que doivent rencontrer les policiers pour établir l'identité des individus soupçonnés. Lorsque le sergent Wickham, auquel deux ou trois de ses camarades avaient parlé à voix basse, se penchant légèrement en avant et posant chacune de ses mains sur ses genoux, commença en ces termes. Mes camarades me demandent de vous raconter comment je mis la main sur Tally O'Thompson. Il est fort embarrassant de faire ainsi son propre éloge. Cependant, comme j'étais seul, comme personne en dehors de moi ne sait ce qui s'est passé, je le raconterai de mon mieux, si cela peut vous être agréable. Tally O'Thompson, dit le brave sergent après avoir trempé ses lèvres dans son grog, Tally O'Thompson était un célèbre voleur de chevaux, maquignon, agent d'affaires, etc., etc. Il avait, avec l'aide d'un individu qui, à l'occasion, lui servait de compère, estorqué à un paysan une somme assez ronde sous prétexte de lui procurer une bonne situation, le bon apôtre. De plus, il était accusé d'avoir volé un cheval dans le comté de Hertford, et c'est moi qu'on avait chargé de l'arrêter. Il me fallait d'abord découvrir où il était caché. Et la seule chose que je susse, c'est que la femme de Thompson habitait Chelsea avec sa petite fille. Aussi, je résolus de surveiller la maison principalement aux heures du courrier, pensant qu'il était des plus probables que Thompson, qui, j'en étais sûr, n'avait pas quitté le pays, écrirait à sa femme. Et en effet, un matin, le facteur remit une lettre pour Mrs. Thompson à la petite fille qui vint ouvrir la porte. Lorsque pour des affaires de service, j'ai eu à m'adresser à l'administration des postes, j'ai toujours rencontré la plus extrême obligeance. Je ne puis pas dire que j'ai toujours été aussi heureux auprès des facteurs. C'est affaire de hasard. Cependant, je traversais la rue, et j'abordai celui-là au moment même où il refermait la porte, après avoir déposé la lettre. « Bonjour, vous allez bien ?»« Et vous » reprit-il. « Vous venez d'apporter une lettre pour Mrs. Thompson ?»« Oui. » »« Vous n'auriez pas par hasard remarqué le timbre de la poste ?»« Non, » me répondit-il, « je n'y ai pas fait attention. »« C'est que, voyez-vous, » repris-je, « je suis dans le commerce, j'ai fait crédit à Thompson, » et je voudrais me faire payer. Je sais qu'il a de l'argent, et si vous aviez pu me dire d'où venait la lettre, je vous en aurais été bien reconnaissant. Vous auriez rendu grand service à un pauvre homme qui n'a pas le moyen de perdre. Mais, reprit-il, je vous assure que je n'ai pas remarqué le thème de la poste. Tout ce que je sais, c'est qu'il y avait de l'argent dans la lettre. Ceci me suffisait. Il était certain que si Thompson avait envoyé de l'argent à sa femme, celle-ci lui en accuserait réception par le prochain courrier. Donc, je remerciai le facteur et je continuai à surveiller la maison. Dans l'après-midi, j'en vis sortir la petite fille. Je la suivis, bien entendu. Elle alla chez le papetier. Je la vis acheter du papier, des enveloppes et de l'encre. Ça va bien, pensai-je en moi-même. Je la vis rentrer et j'attendis patiemment, sachant que Mrs. Thompson était en train d'écrire à Tally Ho et qu'on ne tarderait pas à porter la lettre à la poste. Au bout d'une heure, en effet, je vis ressortir la petite fille avec une lettre à la main. Je m'approchai de l'enfant et je lui parlai. Je ne me souviens plus de quoi. D'ailleurs, cela n'a aucune importance. Mais sans pouvoir voir l'adresse de la lettre qu'elle tenait à l'envers. Cependant, je remarquai que sur le dos de la lettre, il était tombé, à côté du cachet, une goutte de cire. Cette particularité, quelque insignifiante qu'elle peut paraître, me suffisait. Je vis l'enfant mettre la lettre à la poste. J'attendis qu'elle se fût éloignée et j'entrai dans le bureau où je demandai à parler au directeur. Lorsqu'il entra, je me fis reconnaître et je lui dis qu'on venait de mettre à la poste une lettre dont j'avais besoin de connaître l'adresse. Cette lettre était facile à reconnaître. Elle avait au dos une tache de cire. Le directeur fut extrêmement poli. Il prit immédiatement la boîte accrochée dans la devanture et répandit devant moi toutes les lettres qu'elle contenait. Dans le tas, je retrouvai la lettre à la petite tache de cire. Elle était adressée à M. Thomas Pigeon, poste restante à B. Je partis pour B le soir même. De bonne heure le lendemain matin, je me rendis à la poste. Je vis le directeur et lui fis part de mon intention de filer la personne qui viendrait chercher la lettre adressée à M. Thomas Pigeon. J'eus encore affaire à un homme d'une extrême politesse qui m'assura que je trouverais en lui l'auxiliaire le plus dévoué. « Vous pouvez attendre à l'intérieur du bureau, me dit-il, et nous aurons soin de vous avertir si on se présente pour cette lettre. » J'attendis là 3 jours. Je commençais à croire que personne ne viendrait. Quand enfin, un commis me dit tout bas, « Hé, détective, voilà quelqu'un pour la lettre. Retenez-le un instant, dis-je, et je fis le tour du bureau à l'extérieur afin de me retrouver à la porte de sortie. Là, je vis un petit jeune homme qui avait l'air d'un garçon d'écurie, qui tenait un cheval par la bride. La bride étendue barrait le trottoir pendant qu'il attendait au guichet de la poste qu'on lui donnât la lettre. Je m'arrêtai devant le cheval, comme si je le reconnaissais, et je me mis à le caresser en disant au garçon « Eh, mais c'est la jument de M. Jones !»« Non, non, comment non » repris-je. « Elle lui ressemble absolument. » « Ce n'est cependant pas la jument de M. Jones, reprit-il. C'est celle d'un tel, aux armes de Warwick. » Et l'enfourchant, il s'éloigna en portant la lettre. J'arrêtai un fiacre au passage, je grimpai sur le siège et je le suivis. Tout cela fut fait si vivement que j'arrivai à l'hôtel par une porte en même temps que lui par l'autre. J'entrai dans le café, et je me fis servir un grog par une jeune servante, à laquelle le petit jeune homme remit presque immédiatement la fameuse lettre. Elle regarda la suscription sans rien dire, et l'afficha dans le cadre de la glace au-dessus de la cheminée. Tout en buvant mon grog, je me demandais ce que j'allais bien pouvoir faire. J'étais fort embarrassé. Je me décidai en tout cas à demander une chambre. L'essentiel était de ne pas perdre de vue ma lettre, mais la maison était absolument pleine à cause d'une foire de chevaux, de sorte que je fus obligé de me loger un peu plus loin et de me contenter de me promener continuellement devant le café. Chaque fois, en passant, je regardais si j'apercevais la lettre sur la glace. Elle y était toujours. Mais cela n'avançait pas mes affaires. Aussi, au bout de 2 jours, un peu las de mon attente, je résolus d'écrire à M. Pigeon pour voir ce qui en sortirait. J'écrivis et je mis ma lettre à la poste. Je l'avais avec intention adressée à M. John Pigeon au lieu de M. Thomas Pigeon, pour voir ce que cela donnerait. Le lendemain matin, il pleuvait à verse. Je guettais l'arrivée du facteur. J'arrivai au café en même temps que lui. Je le vis donc entrer, ma lettre à la main. « Avez-vous ici ?»« À M. John Pigeon. »« Non. »« Ah, attendez un instant, » dit la fille. Elle examina la lettre accrochée à la glace. « Non, » reprit-elle, « c'est Thomas, et il ne demeure plus ici. Voudriez-vous même me rendre le service de mettre cette lettre à la poste ? Il fait si mauvais. » Le facteur ne demandait pas mieux. Elle plia la lettre dans une autre enveloppe, écrivit une adresse et la lui donna. Il la mit dans son képi et sortit. Je me procurai cette seconde adresse, comme je m'étais procuré la première. La voici. Monsieur Thomas Pigeon, poste restante, à R, Northamptonshire. Immédiatement, je me mis en route pour R. Là, je fis à la poste ce que j'avais fait à B. Et j'attendis aussi 3 jours sans voir personne. Enfin, un autre petit garçon à cheval vint et demanda s'il n'y avait pas de lettre pour M. Thomas Pigeon. D'où venez-vous ? De la nouvelle auberge, près de R. On lui donna la lettre et il s'éloigna au petit galop. Je pris quelques renseignements sur la nouvelle auberge et, apprenant que c'était une maison isolée, fréquentée surtout par des maquignons à quelques kilomètres de la station du chemin de fer, je résolus d'aller d'abord examiner les lieux. C'était bien ce que l'on m'avait décrit. J'entrai pour me reconnaître un peu. La propriétaire était au comptoir, et j'essayai d'entamer la conversation avec elle sur le mauvais temps, les affaires, etc. Lorsque j'aperçus dans une sorte d'arrière-pièce ou de cuisine, 3 hommes attablés. Pour moi, d'après le signalement qu'on m'avait donné, l'un de ces hommes était Ali O'Thompson. Je m'approchai d'eux, j'essayai de les faire causer, impossible. Ils ne voulaient pas parler. Ils se regardaient, puis me regardaient d'un air qui n'avait rien d'encourageant. Je les examinai, ils étaient tous 3 beaucoup plus grands que moi, et avaient de fort mauvaises figures. Comme l'endroit était très isolé, très désert, je pensais que le mieux était de me faire servir un peu d'eau-de-vie pour soutenir mon courage. Je demandai donc un grog. Comme j'étais assis devant le feu en train de le savourer, Thompson se leva et sortit. Ce qui ajoutait à mon embarras, c'est que je n'étais pas absolument certain que ce fût Thompson, ne l'ayant jamais vu. J'aurais voulu être bien sûr de mon fait, mais comment faire ? Marche droit ton chemin, mon bonhomme, me disais-je, et fais de ton mieux. Il s'était arrêté sur le seuil, et il disait quelques mots à l'hôtesse, tout en allumant sa pipe. J'ai su depuis qu'il était en affaire avec un officier de Northampton, et que, sachant que cet officier était marqué de la petite vérole, comme je le suis moi-même, il m'avait pris pour lui. Il causait donc dehors avec l'hôtesse. Alors je me levai, je lui mis la main sur l'épaule comme cela, en lui disant « Tally O'Thompson, n'essaie pas de lutter, je te reconnais. Je suis un officier de la police de Londres, et au nom de la loi, je t'arrête. » « Que le diable ! » s'écria Ali O'Thompson. Nous rentrâmes dans la maison, et là, les 2 amis commencèrent à m'interpeller et à me regarder d'une façon qui ne me plaisait pas du tout, je vous assure. « Allons, lâchez cet homme, » disait-il. « Que voulez-vous faire de lui ? » ?»« Je veux l'emmener à Londres, et je l'y mènerai, aussi vrai que je suis là. » Je ne suis pas seul ici, comme bien vous pensez. Ainsi mêlez-vous de vos propres affaires et ne vous occupez pas de celles des autres. Cela vaudra beaucoup mieux, je vous assure, car je vous connais bien tous 2. Je ne les avais jamais vus de ma vie et je n'avais même jamais entendu parler d'eux, mais mes menaces leur firent de l'effet. Ils s'éloignèrent tandis que Thompson s'apprêtait à partir. Je n'en étais pas moins assez inquiet de ce trajet à faire à la nuit noire sur la route déserte. et je pensais que les deux compagnons pourraient bien avoir le projet de m'y attaquer pour délivrer Thompson. J'appelai donc la maîtresse de l'auberge. « Combien d'hommes avez-vous dans la maison, madame ?» lui demandai-je. « Nous n'avons pas d'hommes ici, » me répondit-elle d'un ton grognon. « Vous avez bien au moins un garçon d'écurie. » « Oui, nous en avons un. Envoyez-le-moi. » Je vis entrer presque immédiatement un jeune homme avec une masse de cheveux ébouriffés sur le dessus de la tête. « Attention, jeune homme, » lui dis-je. « Je suis un détective de la police de Londres. Cet homme est Thompson et je viens de l'arrêter. Il faut que je le conduise à la station du chemin de fer et, au nom de la reine, je vous adjure de me prêter main forte en cas de besoin. Prenez bien garde, l'ami. N'allez pas vous y refuser, car cela pourrait vous coûter plus cher que vous ne pensez. Jamais de ma vie je n'ai vu personne écarquiller les yeux comme le pauvre garçon. Et maintenant, Thompson, en route, repris-je. Mais lorsque Thompson me vit tirer de ma poche les menottes, il se récria. Non, non, pas de ça. Je ne les supporterai pas. Je m'en irai tranquillement avec vous, mais pas de menottes. Tally O. Thompson, lui dis-je, je ne demande pas mieux que de vous traiter comme un homme, si vous me promettez de ne pas en abuser. Donnez-moi votre parole que vous vous en irez paisiblement, et je ne vous mettrai pas les menottes. Je vous le promets, dit Thompson, mais je voudrais bien auparavant prendre un petit verre d'eau-de-vie. J'en prendrai bien moi-même un second, dis-je. Donnez-nous-en deux aussi, ma'am, reprirent les deux amis. Et, Dieu me damne, constable, mais vous paierez bien aussi la goutte à votre homme. Volontiers, répondis-je, et le flacon circula à la ronde, après quoi mon homme et moi nous emmenâmes Tally O. Thompson sans encombre jusqu'à la gare. Le soir, nous étions à Londres. Il fut d'ailleurs acquitté, faute de preuves, et j'ai su depuis qu'il me porte au nu et qu'il me déclare le meilleur des hommes. L'histoire se termina au milieu des applaudissements unanimes de l'assistance. Ce fut alors le tour de l'inspecteur Wild, qui, après avoir fumé gravement en silence quelques instants, commença ainsi. Mon affaire n'était pas mal montée non plus pour pincer Fiquet, l'homme accusé de faux dans l'affaire des primes du South Western Railway. Ce n'est pas vieux, cela s'est passé il y a quelques jours seulement. Mais je vais vous raconter la chose. J'avais appris que Fiquet et son frère avaient des ateliers de construction du côté de Surrey. C'est là qu'ils trafiquaient, vendaient et achetaient des voitures d'occasion. Aussi, après lui avoir tendu bien des traquenards auxquels il ne s'était jamais laissé prendre, je lui écrivis sous un nom d'emprunt pour lui dire que j'avais un cheval et un cabriolet à vendre, que je lui présenterais le lendemain. Je serais très raisonnable pour le prix, car je voulais faire affaire avec lui. Straw et moi, nous nous rendîmes alors chez un ami qui a des chevaux en pension, qui est de la partie, et nous louâmes pour la journée un cabriolet qui, ma foi, avait tout à fait bon air. Puis, avec un autre ami, qui, lui, n'est pas de la police, nous nous mîmes en route. Je laissai mon ami dans le cabriolet devant la porte d'un café pour prendre soin du cheval, et Straw et moi nous allâmes aux ateliers qui sont un peu plus loin. Il y régnait la plus grande animation. Beaucoup d'ouvriers, tous jeunes et forts, travaillaient. Il était clair qu'il n'y avait rien de possible à essayer là. Nous n'étions pas de taille à lutter. Il fallait à toute force attirer notre homme au dehors. « Monsieur Fiquet est-il là ?»« Non. »« Doit-il rentrer bientôt ?»« Mais non, pas de sitôt. »« Ah, et son frère est-il là ?»« C'est moi qui suis son frère. » « Vraiment, je suis contrarié. Je lui avais écrit hier pour lui dire que j'avais un petit cabriolet à vendre. J'ai pris la peine de le lui amener aujourd'hui, et voilà qu'il n'y est pas. »« Non, il n'y est pas. Est-ce que vous ne pourriez pas repasser ?»« Mais non, je ne peux pas. J'ai absolument besoin de vendre et de vendre vite. Ne pourriez-vous pas l'envoyer chercher ?» Il commença par dire que non, que c'était tout à fait impossible. puis qu'il n'était pas très sûr. Enfin qu'il allait voir, essayer, et il se décida à monter au premier. Peu après, notre homme lui-même parut en bras de chemise. « Eh bien, dites donc, vous me paraissez être des gens pressés. »« Oui, oui, repris-je, c'est une affaire très pressée, et vous trouverez que c'est une bonne affaire, terriblement bon marché. » C'est que je n'ai pas grande envie d'acheter dans ce moment-ci, dit-il en cherchant des yeux l'objet en question. Le cabriolet est là dehors. Voulez-vous que nous sortions pour le regarder? Il n'avait pas le moindre soupçon. Nous sortons sur la route, mais voilà que le cheval gagne à la main, mon ami ne sachant pas plus conduire qu'un petit enfant. Jamais vous n'avez rien vu de si drôle. Quand la porte se fut refermée derrière nous, et qu'on fut parvenu à arrêter le cheval, Fiquet fit le tour du cabriolet avec l'air grave d'un juge. Moi, je le suivais. « Eh bien, monsieur, dis-je, c'est propre, c'est d'un bon modèle, fit-il. Je vous crois. Et le cheval, car je voyais qu'il le regardait. Il va sur 8 ans, et, en disant cela, je passais ma main sur ses jambes de devant. Il n'y a pas un homme au monde qui soit plus ignorant que moi en matière de chevaux, mais j'avais entendu l'ami qui me l'avait loué dire qu'il avait 8 ans, et d'un air de connaisseur je répétais, « Il va prendre 8 ans. »« 8 ans, dit-il, oui, 8 ans. Et que demandez-vous du tout? Mon premier et mon dernier prix pour le tout, c'est 450 francs. »« C'est bien bon marché, fit-il en me regardant. « Oui. » Je vous avais bien dit que c'était une bonne affaire. Je ne joue pas au plus fin. J'avoue tout simplement que ce que je veux, c'est vendre. De plus, pour vous faciliter encore les choses, je ne demanderai que la moitié comptant et le reste en billets. En effet, répéta-t-il encore, c'est bien bon marché. N'est-ce pas, repris-je, mais montez donc et essayez le cheval. Je suis sûr que vous l'achèterez. Ma foi, il monte, nous grimpons avec lui et nous nous éloignons sur la route. « C'est une bonne bête, dit-il, qui trotte bien et le cabriolet est très roulant. Je vous en réponds, mais ce n'est pas tout cela et il vaut mieux que je vous dise les choses comme elles sont, monsieur Fiquet, et sans perdre plus de temps. La vérité, c'est que je suis l'inspecteur Field et que vous êtes mon prisonnier. « Vous ne parlez pas sérieusement, s'écria-t-il. « Si, si. « Je vous assure. »« Est-ce ? » s'écria Fiquet. « Celle-là est trop raide. De ma vie, je n'ai vu un homme aussi ahuri. « Vous me laisserez bien prendre une jaquette, reprit-il. « Certainement. Alors, retournons aux ateliers. « Non pas, je ne l'entends pas ainsi. « Je suis déjà allé aux ateliers une fois aujourd'hui, cela me suffit. « Mais nous pouvons l'envoyer chercher. » Il vit qu'il n'y avait rien à faire, l'envoya chercher, l'endossa et me suivit à Londres. Ses souvenirs nous ayant mis en goût, nous réclamâmes l'histoire du boucher. L'officier, à l'air naïf et à la figure fraîche, commença d'une voix douce l'anecdote suivante. Il y a à peu près 6 ans, l'administration fut avertie que des vols importants en soierie et en mousseline se commettaient dans les maisons en gros de la cité. On donna des ordres, et Stroh, Fendal et moi nous fûmes désignés pour nous occuper de ces affaires-là. Nous n'eûmes pas de peine à découvrir les receleurs, et à savoir que le trafic des objets volés se faisait dans une petite auberge près de Smithfield, du côté de Saint-Barthélemy. C'était là que les garçons des magasins en gros apportaient les marchandises et donnaient rendez-vous aux gens qui leur servaient d'intermédiaires. Cette auberge était surtout fréquentée par des garçons bouchers, des jeunes gens de la campagne en quête de place. Aussi nous décidâmes, ah ah ah, j'en ris encore, que je me déguiserais en boucher et que j'irais vivre là. Il faut avouer qu'il était impossible de mettre la main sur un meilleur sujet pour jouer ce rôle. Il n'y en avait pas dans toute la création qui convainc mieux à cet officier. À l'heure actuelle, seulement, en parlant, il reprenait l'air endormi, un peu gras, timide, confiant, bon enfant, d'un jeune garçon boucher. Ses cheveux eux-mêmes sentaient le suif, et ses joues roses attestaient une nourriture fortement animalisée. La chose décidée, je... et sur ses lèvres errait toujours le sourire naïf et benêt d'un jeune boucher, m'habillai comme il convient, fis un petit paquet de vêtements, puis j'allai à la petite auberge et je demandai si on pouvait me loger. Oui, certainement, on peut vous loger. On me donna une chambre et je m'installai dans le cabaret. Il y avait une quantité de gens qui allaient et venaient, et tous en passant me demandaient « Vous êtes de la campagne, jeune homme ?»« Oui, du comté de Northampton. Et je me sens bien seul ici, car je ne connais pas Londres, et c'est une si grande ville. »« Oh oui, bien grande, me répondait-on. Immense. Je n'ai jamais rien vu de pareil. J'en suis confondu. » Etc., etc. Quand quelques-uns des garçons bouchers qui fréquentaient la maison surent que je cherchais une place, ils promirent de s'en occuper. Mais il y avait toujours quelque chose qui ne me convenait pas. Une fois, c'était les gages. Une autre fois, enfin. Ah ah ah, cela ne faisait pas mon affaire. Les habitués à allure suspecte commencèrent bien par se méfier un peu de moi, ce qui me força aux plus grandes précautions dans mes rapports avec Stroh et Fendall. Je ne pouvais guère sortir sans être suivi, mais, plus habitué à ce genre d'exercice qu'ils ne pouvaient le soupçonner, je finissais par les dépister, quelquefois je faisais durer le plaisir très longtemps. Je les emmenais aussi loin que cela m'était commode, puis je me retournais brusquement, et nous nous trouvions nez à nez, alors je m'écriai « Quelle chance, quel heureux hasard de vous rencontrer. Ce Londres est un tel labyrinthe que je me suis encore perdu. » Et nous rentrions ensemble à l'auberge tout en fumant nos pipes. Les camarades étaient pleins d'attention et de bons procédés. Ils m'emmenaient et me montraient les beautés de Londres. C'est ainsi que je vis les prisons, Newgate. À Newgate, en voyant l'endroit où les porteurs chargent leurs fardeaux, je m'écriai « Grand Dieu, serait-ce là qu'on pend les criminels ?»« Cela, êtes-vous assez innocent ?»« Non, non, ce n'est pas cela. » Et ils me montrèrent l'instrument de supplice en me disant « Vous vous en souviendrez, n'est-ce pas ?»« Je vous assure que je me souviendrai de cette journée. » Je n'étais pas à mon aise, car si j'avais été reconnu par quelqu'un de la police, mon affaire était claire. Grâce au ciel, il n'en fut rien. Et j'eus la bonne chance que tout se passa tranquillement. Toutes les marchandises volées que l'on apportait à l'auberge étaient déposées dans une arrière-pièce. Je fus très longtemps avant de pouvoir pénétrer dans ce sanctuaire et de voir ce qui s'y faisait. Comme je fumais ma pipe innocemment au coin du feu, j'avais plusieurs fois entendu les allants et venants suspects demander à voix basse à l'aubergiste « Qui est-ce ? Que fait-il là ?» « Soyez tranquille, » répondait l'aubergiste, « ce n'est qu'un... ah ah ah, qu'un jeune homme de campagne qui cherche une place de garçon boucher. Ne vous préoccupez pas de lui. » Peu à peu, on s'habitua à me voir là et à ne pas se méfier de moi, et je finis par entrer dans l'arrière-pièce aussi librement que les autres. J'y ai vu vendre, en une nuit, pour plus de 4 500 francs de linon admirable, qui avait été volé dans un magasin de gros de Friday Street. Après la vente, les acheteurs offraient toujours à souper, et presque chaque fois, j'étais invité à y prendre part. J'apprenais là une foule de détails, très utiles à connaître pour un détective. Je restai ainsi plus de 6 semaines, toujours à l'auberge, et ne quittant jamais mes vêtements de boucher, si ce n'est pour me mettre au lit. Ce ne fut qu'au bout de ce temps, lorsque j'eus reconnu et filé 7 des voleurs, que je me fus rendu compte des endroits où ils opéraient leur vol, que Stroh, Fendall et moi, nous décidâmes de prévenir l'administration et qu'une descente fut faite à l'auberge. Une des premières choses que firent les agents fut de m'empoigner, car il ne fallait pas que je fusse soupçonné d'être autre chose qu'un garçon boucher. Sur quoi l'aubergiste s'écria « Ne l'arrêtez pas, lui. C'est un brave garçon de la campagne qui ne ferait pas de mal à une mouche. » Quoi qu'il en soit, je fus emmené. On fouilla ma chambre. où on ne trouva qu'un vieux violon qui appartenait à l'aubergiste et qui s'était trouvé là on ne sait pas comment. Ce violon ne changea pas moins complètement l'opinion de l'aubergiste à mon égard. Lui qui m'avait défendu un instant auparavant s'écria « Mon violon ! Comment il m'a volé mon violon ? Mais c'est un voleur ! Arrêtez-le ! » Le voleur de Frieder Street n'avait pas été pris avec les autres. Une arrestation précédente lui avait fait ouvrir l'œil. Il m'avait avoué qu'il n'était pas parfaitement tranquille et qu'il allait se tenir quelque temps à l'écart. « Et où comptez-vous aller, monsieur Shepherdson ?» lui demandai-je. « L'auberge de la Lune qui se couche sur la route du commerce est très confortable et très retirée. Je crois que j'irai y passer quelques jours. Je me ferai appeler Simpson. C'est un nom modeste qui n'attire pas l'attention. Vous viendrez me voir, n'est-ce pas, l'ami ?»« Bien certainement. » C'était tout à fait mon intention, car il fallait bien finir par l'arrêter. Dès le lendemain, je me rendis avec un autre agent à l'auberge de la Lune qui se couche, et je demandai Simpson. On m'indiqua sa chambre au premier. Comme nous montions, il se pencha au-dessus de la rampe et cria « Hola, camarade, est-ce vous ?»« Oui, c'est moi. » « Comment ça va-t-il ? » ? « Pas mal, pas mal. Mais qui donc m'amenez-vous ? » « C'est un jeune homme de mes amis. » « Alors montez. Les amis de nos amis sont nos amis. » Ce fut cet ami qui m'aida à l'arrêter. « Vous n'avez pas idée, monsieur, de l'effet que fit mon apparition à l'audience. Quand je m'avançai en uniforme et que tous ces gens s'aperçurent que je n'étais nullement un boucher et qu'ils avaient été mis dedans, il s'éleva un murmure d'horreur et de stupéfaction. Au cours du procès, Maître Clarkson, l'avocat de la défense, ne put jamais s'y reconnaître. Il embrouillait constamment le garçon boucher et l'officier de police. Je ne pouvais vraiment pas faire que ce ne fût pas le même. Aussi, je crois que finalement, il a renoncé à comprendre. Sur 7 prisonniers qui furent jugés, 5 furent reconnus coupables et condamnés à la déportation. Voilà l'histoire du garçon boucher. Il était tard, et la discrétion voulait que nous ne prolongions pas davantage la soirée. Nous allions nous retirer lorsque le sergent Thornton, jetant autour de lui un regard souriant, dit « Avant de nous séparer, messieurs, peut-être cela vous amuserait-il d'écouter le récit des aventures d'un sac de voyage. C'est très court et vraiment curieux. En 1847, je fus envoyé à Chatham, à la recherche d'un juif nommé Méchec. C'était une manière d'usurier. Quand il ne volait pas purement et simplement des billets de banque, il estorquait des signatures à des jeunes gens de bonne maison, principalement dans l'armée, et alors je vous assure que le chantage marchait bien. Méchec avait filé avant même que je fusse arrivé à Chatham. Tout ce que je pus savoir, c'est qu'il était parti sans doute pour Londres et qu'il emportait avec lui un sac de voyage. On fermait la gare, j'étais arrivé par le dernier train, et il ne restait plus là que 2 ou 3 commissionnaires. Chercher un juif avec un sac de voyage sur le chemin de fer de Blackwall, qui est la ligne directe du grand dépôt militaire, c'est pire que de chercher une aiguille au milieu d'une botte de foin. Cependant, le hasard voulut que l'un de ces commissionnaires eût porté à une certaine auberge le sac de voyage d'un certain juif. Je me rendis à l'auberge indiquée. Le juif n'avait fait que poser là son bagage pendant quelques heures, et il était revenu le chercher en voiture. Ayant habilement questionné l'hôtesse et le commissionnaire, j'obtins le signalement de ce sac. Un sac de tapisserie, dont l'une des faces représentait un perroquet vert sur un perchoir. Grâce à ce perroquet vert, je suivis les traces de Méchec à Cheltenham, à Birmingham, à Liverpool, jusqu'à l'océan. Mais là, j'étais refait. Il s'était embarqué pour les États-Unis, et je dus abandonner tout espoir de jamais revoir Méchec et son sac. Quelques mois plus tard, un vol important ayant été commis dans une banque d'Irlande par un individu du nom de Dr. Dundee, et cet individu, ayant filé en Amérique, où l'on sut qu'il avait acheté une terre à New Jersey, je fus envoyé à ses trousses dans le but de faire saisir cette propriété et de la faire vendre au profit des parties lésées. C'était une affaire délicate. Je débarquai à Boston et de là, je me rendis à New York. Je découvris bientôt que mon homme venait d'échanger du papier de New York contre du papier de New Jersey et qu'il avait placé des fonds dans New Brunswick. Mais pour pouvoir m'emparer du dit docteur, il fallait absolument l'amener sur le territoire de New York, et ce n'était pas chose facile. Une fois, il n'y avait pas moyen d'obtenir de lui un rendez-vous. Une autre fois, il y manquait. Ses enfants avaient la rougeole. Cependant, un jour, il m'arriva par le bateau à vapeur. Je me saisis de lui et je l'installai, incontinent, dans une des prisons de New York que l'on appelle les tombeaux et que vous connaissez sans doute. Dès le lendemain, j'allai au tombeau pour assister à l'interrogatoire du magistrat. Je passai par le cabinet particulier de ce dernier quand, jetant les yeux autour de moi par hasard, j'aperçus dans un coin un sac de voyage. Et que pensez-vous que je vis sur ce sac? Vous me croirez, si vous voulez, un perroquet vert sur son perchoir. Je le voyais comme je vous vois. Au grand ébahissement des agents présents, je m'écriai « Mais ce sac appartient à un juif anglais, à Aaron Meshech. Comment avez-vous pu savoir cela ? » s'écrièrent-ils. Je vous réponds que je n'oublierai pas de sitôt ce perroquet vert. J'ai fait, après cet oiseau, la plus belle course que j'ai jamais fait de ma vie.
Et c'était bien Meshech ? Demanda timidement quelqu'un d'entre nous.
Il avait été arrêté pour quelque autre méfait et était enfermé au tombeau, dans ce moment-là même. Ce qui est plus piquant, c'est qu'on trouva dans le fameux sac les preuves de la fraude pour laquelle je l'avais poursuivi. C'est surtout dans les circonstances délicates ou difficiles, dans les cas où une grande habileté est nécessaire, que ce service particulier de la sûreté est remarquable. L'expérience de chaque jour vient s'ajouter à la finesse primitive des agents et leur rend possible cette lutte contre ce que le génie de la perversité ne cesse d'inventer. Toujours au guet, l'esprit tendu, ces braves gens ont à toutes les minutes, à toutes les heures, à déjouer les ruses que tous les scélérats sans feu ni lieu peuvent imaginer. Les procès de cour d'assises fourmillent en documents, en histoires qui s'élèvent parfois au sublime et au romanesque. Mais la plupart du temps, tous ces épisodes dramatiques sont résumés dans une phrase de convention. D'après les ordres reçus, j'ai fait ceci ou cela. Les soupçons désignent tel individu. Il faut s'assurer avec tact que ces soupçons sont fondés et, si besoin est, s'emparer de lui, où qu'il soit et quelques soins qu'il prenne de se cacher. Il est pris, il est là, à la barre, cela suffit. C'est d'après les ordres reçus que moi, agent, j'ai agi. L'usage est de ne pas en dire davantage. Ces parties d'échecs, dont les pièces sont des êtres vivants, n'ont que peu de spectateurs et ne sont enregistrées nulle part. L'intérêt du jeu encourage seul le joueur. Le résultat, voilà la seule chose que réclame la justice. Pour comparer de petites choses aux grandes, c'est comme lorsque le Verrier ou Adams annoncent au public qu'ils ont découvert une nouvelle planète ou Colomb un nouveau continent. Ils annoncent la chose purement et simplement. Les détectives font de même. À minuit, nous nous séparâmes, mais ce qui est assez piquant, c'est qu'un des agents de police et un des plus forts s'est laissé dévaliser en rentrant chez lui.